Ils sont et elles sont bibliothécaires, souffleurs, costumiers, perruquiers ou en charge des décors. Vous ne connaissez pas leur nom et pour cause, ils se tiennent soigneusement à distance du public, des regards, loin des lumières des représentations théâtrales dont ils sont pourtant les maillons et les rouages essentiels. Ces perruquiers, ces souffleurs, ces bibliothécaires sont au cœur de l'émission que voici, Les Petits Métiers de la Comédie Française, émission réalisée pour la séquence Centre de Gravité des après-midi de France Culture en 1980 à l'occasion du tricentenaire du français. C'était le 14 juillet 1980 dans les après-midi de France Culture.
M² de moquette, 300 personnes, une maison de 5 étages dotée d'un ascenseur qui, lors de son installation, fit d'ailleurs un véritable scandale, et 70 acteurs, voici en quelques chiffres la Comédie Française. Elle a ses traditions, son vocabulaire et sa vie propre. Un exemple entre autres, pour rencontrer un acteur ou un régisseur, il faut aller à Talma ou à Rachel, traduction, au deuxième ou au cinquième étage. La Comédie Française a une histoire. Sa bibliothèque, située de l'autre côté du Palais Royal, c'est-à-dire du côté jardin, archive depuis 300 ans des milliers de documents et d'objets qui ont appartenu aux vedettes du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle, c'est-à-dire au fond de Molière à Jacques Toja. Elle présente ses trésors à l'occasion du tricentenaire de la Comédie Française dans une exposition à la Bibliothèque Nationale. Mademoiselle Guibert, responsable de la bibliothèque, nous a servi de guide. Et le premier tableau qu'elle nous a montré est bien entendu celui de Molière.
C'est une très célèbre toile anonyme de 1670 qui est antérieure à la fondation même de la Comédie Française à proprement parler et qui rassemble les comédiens français et italiens, les farceurs et comme vous voyez Molière est ici à l'extrême gauche de la toile. C'est un des rares portraits de Molière qui soit contemporain du personnage, hein, puisqu'on a ensuite beaucoup plus de copies. Mais enfin, on va en voir quand même deux autres. Voilà, un très très beau portrait de Pierre Mignard qui représente un Molière qui est vraisemblablement aussi contemporain, Molière un peu triste, c'est la raison pour laquelle nous l'aimons beaucoup à la Comédie Française. Et puis une interprétation du XVIIIe siècle qui est splendide, mais qui est de Coypel, donc qui est un portrait largement posthume. Et ici, devant nous, là, c'est le fauteuil du malade imaginaire, le fauteuil dans lequel Molière s'est affaissé et qu'il a quitté pour mourir quelques heures après.
On est sûr que c'est l'original.
Oui, enfin, il y a de fortes chances que ce soit l'original. C'est un fauteuil qui a d'ailleurs qui a été le fauteuil du malade imaginaire jusqu'en 1879. Il est conservé dans le registre de 1815 des accessoires comme étant le fauteuil du malade imaginaire avec la notation pour mémoire parce qu'il n'a pas de prix.
A-t-on des manuscrits de Molière lui-même ?
Alors nous en avons un ici. C'est un manuscrit qui a été récemment acheté l'année dernière, qui est entré l'année dernière dans nos collections. Il s'agit d'une édition d'Andromède, de Corneille, et sur cette page de distribution, vous voyez en marge à gauche les noms des comédiens qui ont joué. Et il y a de toutes fortes chances que ce soit Molière qui ait écrit ces lignes.
La Comédie Française a son jargon. Tout débuta par ce que l'on appelle la jonction, c'est-à-dire l'union des troupes de comédiens du Marais, de l'Hôtel de Bourgogne et de la troupe de Molière. Et de cette jonction est née la Comédie Française. Cet acte de naissance est présenté par Madame Guibert.
Tous ces papiers que vous voyez là, ce sont les archives du théâtre. C'est assez extraordinaire d'imaginer que nous possédons en continuité, pratiquement depuis le XVIIe siècle, les archives de la Comédie Française. Vous voyez ici des feuilles d'assemblée que les comédiens tenaient après leur réunion. Et l'une d'elles consigne la toute première feuille d'assemblée des comédiens quand ils ont décidé de se réunir pour décider de leur répertoire et de leurs affaires. Et également pour inciter les comédiens à venir à ces réunions, on leur a donné des jetons de présence.
Ah, c'est un jeton de présence.
C'est un jeton de présence en argent d'une valeur de 30 sols que la grange a fait frapper. Alors contre ce jeton, il recevait de la monnaie sonnante et trébuchante.
Oui, c'était un moyen d'obliger les acteurs.
De les inciter, c'était une forte incitation. Oui. Alors ceci est un facsimilé du registre que de Lagrange que j'ai là dans les mains, qui va être exposé et qui va être exposé à la dot à la jonction. Et nous avons, étant donné que ce registre a été réédité il y a quelques années, la possibilité d'ouvrir à différentes pages. Alors ici, c'est un état départ et pension fait par Lagrange au lendemain de la jonction. Hein, au lendemain de la jonction, de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficulté entre les comédiens et que tout, c'est un état de la répartition des bénéfices.
Pour rappeler un peu qui était Lagrange.
C'était d'abord au départ un comédien qui est entré dans la troupe et qui a, dès son entrée dans la troupe, tenu un registre. C'était aussi un ami très, très cher, très fidèle de Molière. Et il est certain que c'est grâce à Lagrange, sans conteste, que la Comédie française existe, bien probablement. Car après la mort de Molière, c'est lui qui a repris la troupe en main. Et c'est lui également qui a édité en 1682 les œuvres complètes de Molière avec une préface, qui est la première biographie de Molière.
Là encore des costumes.
Alors des costumes qui sont authentiquement du XVIIIe siècle et qui ont été portés au XIXe, mais qui sont très beaux. Ce sont des broderies, nous avons prêté récemment à une exposition sur la broderie ancienne.
On voit que les hommes étaient plus petits que maintenant.
Ah oui, ça, sans conteste, on le voit d'ailleurs aux souliers également. Nous avons des quantités de costumes et de souliers qui seraient aujourd'hui totalement inutilisables. Il y avait tout un fond de costumes du répertoire et on reprenait, jusqu'à une période très récente d'ailleurs, dans l'atelier des costumes de la Comédie française, on le voit, puisque tout est fiché et extrêmement bien tenu. Les costumes étaient utilisés pour différentes pièces. Il n'était pas question de monter, de réaliser des costumes pour chaque présentation scénique, non. À cette époque va s'effectuer une réforme aussi concernant le décor et la mise en scène, parce que au milieu du XVIIIe siècle, sous l'influence de Lequin, les gentilshommes vont disparaître de la scène, ce qui va donner une aire de jeu beaucoup plus libre et la possibilité pour les comédiens
de jouer vraiment,
oui, c'est ça, ne plus jouer avec. Nous avons donné une évocation de ce que pouvait être la loge de Talma, que nous ne connaissons pas, bien entendu.
Elle devait être plus grande.
Ah ben, de toute évidence. Nous avons surtout souhaité évoquer, par ce très beau tableau de la Grenée et par cette tunique qui a sans doute appartenu à Talma.
Et par cette très jolie table.
Par cette jolie table qui lui a appartenu, c'est un petit meuble léger, très, très élégant. Par également sa canne, par les différentes couronnes qui lui ont été offertes, dont celle-ci qui a été offerte par Napoléon Ier, par ce petit tableau qui est une très jolie aquarelle de David et qui a été donné par David lui-même à Talma, sa pendule et des objets familiers qui sont un petit peu répartis dans les vitrines quand ils sont trop précieuses pour être dans la loge elle-même. Derrière sa loge, il y a tout un ensemble de documents qui évoquent Mademoiselle Georges. Mademoiselle Georges, qui n'est pas restée très longtemps à la Comédie française, puisqu'elle est partie en Russie, mais elle était très protégée par l'empereur. Et elle est ici présentée par cette jolie gravure qui est une interprétation du tableau de Gérard, et par son éventail, et par cette gravure de la galerie Haute-Cœur-Martinet qui la représente dans Athalie. Et aussi cette caricature très célèbre qui représente le conflit entre Mademoiselle Georges et Mademoiselle Duchesnois. Pour le moment, nous allons nous attarder un petit peu devant la loge de Rachel. Elle est représentée ici dans une toile de Dubuff, dans le rôle de Camille. Et elle est entourée d'objets qui lui ont appartenu, qui sont habituellement dans le foyer Rachel à la Comédie française, ce bureau... cette petite table et...
C'est en marqueterie, c'est ravissant.
Oui, ce sont des meubles de boule qui sont très beaux. Et puis, dans cette vitrine, nous avons aussi un ensemble de bijoux et de...
Et d'objets qui m'ont appartenu.
Qui l'ont appartenu, notamment cette couronne de laurier, ce diadème qui lui a été offert par les comédiens. Et puis, ce petit... mouchoir très, très ouvragé, très travaillé.
Qui a l'air russe
Non, elle l'utilisait dans Marie Stuart, dans le rôle de Marie Stuart. son poignard, joli peigne aussi, en cornaline. Et elle a donné aussi beaucoup de soucis à la Comédie Française, parce que c'est la difficulté pour une comédienne de s'intégrer à une troupe quand on en devient la vedette.
Oui, on le voit, Mademoiselle Rachel qui a obtenu un congé de 12 mois par an.
Elle demandait beaucoup de congés, elle avait besoin d'argent, elle vivait assez largement, bien entendu, et on lui faisait des ponts d'or à l'étranger, alors elle demandait des congés sur congés, et ça n'avait pas l'heure de plaire aux administrateurs, et ça se comprend. Et surtout, lorsque Rachel partait, la Comédie Française se vidait, public délaissait la Comédie.
Le public aimait plus Rachel que la Comédie Française elle-même.
Oui, c'est le phénomène
de la vedette.
De la vedette. Bon, ici, les maquettes de costumes du misanthrope de Lormier, qui sont des petits chefs-d'œuvre quand on les regarde attentivement. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a décidé de jouer à ce moment-là, en 1837, de jouer le misanthrope dans le costume du XVIIe siècle, alors qu'on avait continué de jouer. Étant donné que c'était des comédies, pendant longtemps, sont restées des comédies modernes, on les jouait à chaque fois dans le costume du temps, de l'époque.
On a préféré classifier.
C'est ça, c'est devenu vraiment. Enfin, c'était déjà un classique, bien entendu. Mais
est-ce que ces costumes refaits sont inspirés des modèles originaux ou bien est-ce que ce sont des créations tout à fait originales?
Oh ben, ils sont très inspirés par la mode du XIXe siècle. D'ailleurs, nous avons à la bibliothèque quantité de registres et de documents, de dossiers d'études. Les décorateurs du XIXe siècle apportaient un soin à la souci d'authenticité tout à fait remarquable. Nous avons des planches entières qui représentent à la fois les maquettes, les projets et des gravures anciennes. On voit très bien la parenté qu'il y a et les liens entre les différents documents. C'est l'administration Édouard Thierry qui fait une large part, cette vitrine fait une large part à la Comédie Française sous la Commune, la guerre de 70 et l'ambulance de la Comédie Française. Pendant la guerre de 70, le foyer a été transformé en ambulance. Nous avons une gravure là-bas et les comédiennes se sont beaucoup dépensées auprès des blessés. Il y a déjà un jeune comédien français, Céveste, qui est mort de ses blessures dans le foyer. On a aussi ici un petit document extrêmement touchant qui représente le petit écriteau qu'on plaçait au bas du lit. Vous voyez, pancarte des lits de l'ambulance au foyer de la Comédie Française.
Et Madame Guibert, avez-vous consacré une vitrine à Sarah Bernhardt?
Elle est représentée dans nos vitrines, bien sûr, dans le rôle de Ruy Blas, dans Reine de Ruy Blas. Son costume très beau, perlé, est exposé, la petite couronne qu'elle portait sur la tête. Nous avons aussi une charmante porcelaine, qui est une petite miniature sur porcelaine, qui est habituellement dans mon bureau, et qui la représente par Marie Besson. Marie Besson s'était fait une spécialité de peindre les sociétaires de la Comédie Française. Elle était très liée avec beaucoup d'entre elles, et en particulier avec Sarah Bernhardt. Nous avons également ses contrats d'engagement de pensionnaires, puis de sociétaires.
Avez-vous conservé les gazettes de l'époque parlant de la Comédie Française?
Ah oui, absolument. Oui, nous les avons ici. Nous avons une belle collection du Mercure. C'est une très jolie collection même, parce qu'il y a peu de collections complètes du Mercure. La nôtre n'est pas absolument complète, mais elle est très riche.
Qui peut venir consulter vos archives et vos livres?
La bibliothèque est essentiellement, comme je disais tout à l'heure, la bibliothèque des comédiens français. Mais nous accueillons volontiers les chercheurs, tous ceux qui ont besoin de venir travailler sur des documents originaux qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs qu'ici. C'est essentiellement cela. Pour le reste, je dois dire que lorsqu'on a beaucoup des petits enfants qui travaillent, comme c'est la mode aujourd'hui, sur Molière, Racine, nous les envoyons dans les bibliothèques. Dans la bibliothèque publique ou le centre Beaubourg, qui est très bien équipé maintenant pour ce genre de travaux. C'est quand même essentiellement une archive ici.
Les 1400 documents, objets et tableaux sont exposés à la Bibliothèque nationale rue Richelieu. Les chercheurs peuvent consulter les archives de la Comédie Française l'après-midi. En raison de l'exiguïté des lieux, il est préférable de prendre rendez-vous. La bibliothèque est indispensable. Les comédiens et les metteurs en scène consultent les archives. Et une fois réglée leur scénographie, le décorateur va voir Jean-Bernard François, le directeur de production, qui est aussi responsable de la construction et de l'installation des décors. Mais comment construit-on un décor, monsieur François ?
En principe, en une demi-heure, on peut avoir démonté un décor. Mais s'il s'agit de le renvoyer dans les magasins à Sarcelles, il faut plus de temps, puisqu'il faut mettre dans le magasin ici à décor, dans le monte-charge.
C'est-à-dire le magasin à décor, c'est un monte-charge ?
C'est un monte-charge qui permet de l'amener dans un chariot qui va repartir. Je dis un chariot, c'est un camion. Donc le temps est variable. Vous avez, doit-on le dire, on s'y prend maintenant pour jouer dans, répéter sur scène dans 3 jours. Et il faudra une nuit de montage pratiquement, quand on remet en état un décor.
Alors quelle est la manière de démonter un décor ? Comment s'y prend-on ?
Nous fabriquons des décors en petits morceaux pour aller en tournée, pour qu'ils puissent aussi aller dans nos camions. Et on est obligé de les faire selon des normes de largeur qui varient entre 2,10 m et 2,20 m, en longueur 7 mètres, quelquefois 10 mètres, pas plus. Et on assemble ça, on barre, ce qu'on appelle on barre les décors, ces petits morceaux, c'est un puzzle qu'on est obligé d'assembler, on les barre, soit avec des équerres, soit avec des grandes barres en bois. Vous voyez, ils sont en train de visser des équerres actuellement pour assembler le praticable, qui lui va prendre la moitié du plateau. Quand le plateau est vide et propre, on monte ce qu'on appelle des grandes fermes ou des frises.
C'est-à-dire ?
Alors, des grandes fermes, ce sont des éléments en bois. Au lieu d'avoir un rideau, si vous voulez, qui descendait comme dans le temps, maintenant on a des éléments construits, plus lourds, plus importants. On les barre au sol, on les met à l'envers, on les barre au sol. Ensuite, on les attache sur nos porteuses et on les envoie vers le grill, au cintre, ce qu'on appelle dans nos cintres. Ensuite, on fait le montage du décor qui est au sol. Et on le range dans des cases ou sur les côtés en coulisses, selon les cas.
Comment ça se passe lorsqu'il y a des changements de décor ?
On remplace, nous avons ce qu'on appelle des équipes, des porteuses, numérotés. Bon, par exemple, sur l'équipe numéro 12, nous avons le premier tableau. Et puis, quand on va rappuyer au cintre ce décor, ou cette ferme, ou ce rideau, il y en a d'autres, ce sera la 15, ou la 17, ou la 8, qui vont descendre, qui vont être chargés, ce qu'on appelle chargés. Appuyer et charger, et à ce moment-là, on a le changement. Toute la machinerie, maintenant, se fait par curseur sur des pupitres qui se trouvent au cintre.
Donc il suffit simplement d'une seule personne qui joue sur un clavier ?
Oui, mais enfin il faut quand même plusieurs personnes parce que dans les changements de décor, vous avez des simultanéités. Vous pouvez très bien avoir des fondus avec un rideau de tulbe, par exemple. Donc avec des éclairages, vous avez un élément qui monte pendant que l'autre descend. Donc à ce moment-là, il vous faut plusieurs personnes pour manœuvrer les curseurs, qui sont quand même répartis sur une 40-45 équipes. Donc un seul ne suffit pas.
Êtes-vous obligé, alors, par sécurité, d'avoir plusieurs autres personnes qui, justement, en cas de pépin, pourraient...
Ça, vous êtes en train, justement, de mettre le doigt, non pas sur l'électronique, mais c'est là où, s'il y a une panne, on ne peut pas. On n'a pas le moyen, pour l'instant, de récupérer à la main les équipes. Ça risque de casser le spectacle.
Combien de personnes faut-il pour monter un décor ?
Là, ils sont 15 machinistes au total. Vous en avez 5 cours et jardins, donc ça en fait 10 au sol, puis 5 cintriers. Vous avez 4 cintres tapissiers, un ou deux accessoiristes pour démonter ou monter. C'est tout ce que nous avons là pour au travail direct. Bien, il y a des équipes très organisées, dirigées par chaque chef de service. Chaque homme connaît ce qu'il doit faire. Les uns vont porter des éléments de décor et les remettre en coulisses. Les cintriers, eux, vont rappuyer ce qu'on appelle les frises et en remettre d'autres. Et les éclairages sont réglés ou pré-réglés, mais on essaie encore avant de relever le rideau.
Combien avez-vous de possibilités de changement de décor dans une pièce ?
Et si je remonte dans le temps, une représentation comme Donogo, avec le système ancien qui consistait à avoir énormément de choses au cintre, vous aviez 21 tableaux, 21 changements de décor.
La scène de la salle Richelieu est-elle pratique ?
La scène ? Ouais. Non. Non. Gros inconvénient, les découvertes. C'est un théâtre où il y a très peu de dégagement sur les côtés, une grande ouverture par rapport aux coulisses. Les coulisses ne sont pas assez dégagées. On est pris dans une vingtaine de mètres et c'est tout. Donc si on a en alternance des décors qui se trouvent en coulisses sur ce qu'on appelle les pales-planches, sur les côtés...
Le spectateur ne peut pas voir.
Puis, si vous voulez, quand je parle des découvertes, c'est au contraire. Les spectateurs qui sont dans les baignoires voient tout ce qui se passe en coulisses et il faut toujours boucher avec des rideaux noirs, ce qui bouche aussi la possibilité d'amener des projecteurs, ce qui amène beaucoup de difficultés du point de vue réalisation et intérêt du spectacle, quoi.
La grande originalité de la comédie française, c'est l'alternance, c'est-à-dire qu'au cours d'une même semaine, la troupe du français présente plusieurs pièces. Cela crée des difficultés, comme l'explique M. François.
Dans le principe de l'alternance à la comédie française, vous avez, la veille, on a joué, admettons, Tartuffe. Le lendemain matin, on va déblayer ce Tartuffe pour installer les répétitions, le décor de répétition ou le décor réel, où on va faire des éclairages, où on va faire répéter les comédiens dans le décor réel, dans l'après-midi, en général de midi à 17h. Et ensuite, il faudra redémonter ce décor pour réinstaller, par exemple, les femmes savantes qui vont jouer. Vous avez eu Tartuffe la veille, répétition de la mouette dans l'après-midi, donc il faut démonter, remonter, et ensuite le soir, il faut démonter cette mouette qui a répété pour remonter les femmes savantes, et pas forcément Tartuffe, d'ailleurs.
Mais alors, est-ce que vous conservez les décors sur un linteau que vous relevez, puis alors vous rebaissez l'autre ?
Alors, oui, et quand vous appelez linteau, nous appelons ça des porteuses, et quand nous pouvons mettre ça dans nos cintres, mais sinon, ce sont des morceaux de décors qui sont remis en cases et sur les côtés, comme j'ai expliqué.
Monsieur François, alors, y a-t-il des règles dans la construction du décor, par exemple ?
Bien sûr, les règles dans la conception du décor. La première, c'est de s'adapter à notre scène, et j'insiste beaucoup sur l'alternance dans ce théâtre, et en fonction de ses tournées. Lorsqu'un décorateur est choisi par un metteur en scène et qu'il a montré un projet... On doit travailler avec lui pour lui montrer les inconvénients de notre scène et ses possibilités, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients, on peut aussi l'aider à utiliser au mieux notre scène. Mais quand on conçoit un décor, avec le décorateur, le metteur en scène, on essaie toujours de le satisfaire s'il est précis, les idées sont intéressantes pour nous. On peut réussir un décor à condition qu'il soit compris par le metteur en scène et correspond vraiment à ce qu'il veut, pour qu'un décor ne prenne pas plus d'importance que les comédiens. Et il faut qu'il soit facilement mis en place, dans un temps bref, démonté facilement, qu'il ne s'abîme pas, alors qu'il est toujours fait en petits morceaux, comme j'en ai déjà parlé, avec les possibilités de tourner pour pouvoir aller dans des camions spéciaux. Alors, quand on est parti de ces bases, nous réunissons tous les chefs de service qui travaillent dans la tapisserie, l'éclairage, la machinerie, la construction, la décoration, de façon à partir d'un seul esprit, dont celui du metteur en scène et de son décorateur.
À force de vous adapter, ne vous arrive-t-il pas de changer les choses ?
L'adaptation, ce n'est pas une adaptation, c'est une interprétation en fonction de nos moyens aussi.
Quel est le rôle du décor, justement ?
Oui, si on applaudit un décor au lever de rideau, avant même d'avoir vu la pièce se dérouler, je dis que le décor n'a pas fait son œuvre. Normalement, il doit être là pour l'ambiance, il doit jouer un rôle de comme les comédiens vont jouer leur rôle. Il doit rester avec son caractère, son ambiance, et non pas être applaudi pour un beau décor en disant on vient voir un décor et on s'en va. Et en fait, ça doit faire partie d'un tout. C'est mon esprit. Le décor doit être bien fait, il est en général fait pour durer, parce que on risque de reprendre, et on en a un exemple actuellement, doit-on le dire, a été monté il y a 2 ans, et on le reprend maintenant. Donc on construit solide pour pouvoir aller en tournée, mais pour pouvoir le rejouer en alternance et le reprendre et le remettre dans des chariots, le retransporter, et ça revient et il doit toujours être en état. Donc un souci de solidité.
Est-il déjà arrivé qu'un comédien refuse un décor ?
Le comédien râle toujours quand il découvre un décor. Mais
c'est une habitude, c'est un caractère ?
C'est un caractère, surtout à la Comédie française. Mais après, il s'y fait. Il est bien obligé. Mais il ne peut pas. Un comédien ne refuse pas un décor. Il le boude, il essaie de le faire supprimer, mais c'est quand même le metteur en scène et le décorateur qui ont la priorité dessus.
Au même titre que le décor, le costume joue un rôle essentiel. Sous les combles, c'est-à-dire à l'étage Rachel, près d'un colombier dans son minuscule atelier, M. Jean-Patrick Gaudry répare, ravaude ou crée des costumes. Entre deux coups d'aiguille, il explique les difficultés de son métier.
On a du mal à le quitter, on a peur des regrets posthumes. On l'a pourtant beaucoup porté, le vieux costume. Il va falloir abandonner ce reflet de ce que nous fûmes, qu'un bras de lilas blanc fané.
Comment fait-on pour concevoir un costume ? Comment ça se fait ? Vous voyez avec le metteur en scène ?
Absolument pas, avec le décorateur principalement. Et puis je participe à l'échantillonnage à partir du moment où il y a une décoration à faire dessus, un accessoire de costume, genre bijoux, armure, casque, sculpture ou teinture pour rattraper une couleur, pour faire une couleur, pour fabriquer les accessoires.
Avant, on jouait au XVIIe siècle parce que c'était contemporain. Maintenant, on joue au XVIIe siècle. Ça veut dire que vous êtes obligé de refaire les choses ?
Oh, il y a eu un temps, il y a eu une mode maintenant qui fait qu'on revient à la coupe d'époque, au costume de théâtre dit d'époque avec des recherches précises. Mais il y a eu un temps où on a fait des élucubrations à partir de la forme. C'est-à-dire que moi j'ai eu un enseignement de base qui comptait surtout, c'était le volume d'époque, et on ne s'occupait pas du tout des coutures, de l'emplacement des coutures. Maintenant, de plus en plus, on en revient à l'ambiance, pour avoir l'ambiance même du costume, avoir la couture à la bonne place, au centimètre près, et avec le matériau le plus près possible et l'impression le plus près possible.
Est-ce que vous êtes obligé de réparer les costumes anciens ?
Ça, c'est l'entretien. L'atelier s'occupe de tout, comme tous les ateliers ici, s'occupe en partie de la création et aussi de l'entretien.
Et est-ce que vous êtes, par exemple, obligé de reprendre des costumes du bourgeois gentilhomme parce qu'il y a une évolution du corps ?
De toute façon, ce n'est pas les mêmes costumes puisqu'ils sont refabriqués. Ça n'a absolument rien à voir. Et avec la vision personnelle du décorateur du moment. Puisque là, moi, j'en connais 3. Ça va être le 3e dans la maison. Est totalement différent. Et ce n'est pas celui de la création, fatalement. Parce que les costumes n'existaient pas. N'existent plus.
Fatalement, vous êtes obligé de vous adapter.
Fatalement, il faut s'adapter.
Est-ce que vous pouvez quand même donner quelques indications au décorateur en lui disant non, ça ne peut pas aller ?
Ça dépend des décorateurs, mais de toute façon, lui est apte à savoir savoir ce qu'il va faire. C'est pas mon rôle de faire ça. Moi, je suis vraiment derrière le décor et j'exécute.
Quelles sont les difficultés d'exécution ?
Oh, le problème des matériaux qu'on ne trouve plus ou qu'on trouve de moins en moins. Et puis l'adaptation lorsque on veut faire du 17e, pour le 17e, trouver ce qui correspond à peu près dans les matériaux modernes avec l'époque. Et ça, c'est maintenant de plus en plus difficile, serait-ce la qualité des velours, la qualité des tissus, qui n'est plus du tout la même, à cause des synthétiques.
Comment fabrique-t-on une armure ?
Oh, il y a 8000 façons de le faire. Il y a une base, il y a des moules, il y a des matériaux nouveaux comme le plast en pierre qu'il faut travailler avec des moules, préparer une sculpture, puis un moule en plâtre, et puis tirer ensuite l'armure à l'intérieur de ça avec ce matériau. Puis en plus, après ça, tout le travail dessus, des enduits et de ce que le décorateur veut dessus, aussi bien le tissu appliqué que la feuille d'or.
Lorsqu'une pièce comme Tartuffe se joue, disons, en alternance, vous êtes obligé de refaire les costumes, parce que, évidemment, il y en a qui se déchirent, c'est dans la mise en scène.
Ça arrive, mais vraiment, c'est du travail d'atelier, ça. Mmh. Rarement les accessoires qu'on fabrique, d'abord, on subit des gros tracas, non, ça. Mmh.
Votre métier d'exécutant vous a-t-il permis d'être créateur ?
Il m'a permis de concevoir autrement que dans la pensée le métier de créateur. C'est-à-dire que ça me permet de savoir ce qui peut se faire sur les matériaux et d'en faire des maquettes. Et d'en avoir l'idée déjà et de pouvoir l'exécuter plus rapidement, en tout cas. Alors, de ne pas laisser un vague au niveau de l'échantillonnage, de savoir à peu près ce que je veux.
Et dans ces cas-là, vous prenez des exemples ou bien vous essayez de créer quelque chose de neuf ?
Comme j'en suis qu'au début de mon métier de créateur, en tout cas, pour l'instant, j'essaie de faire ce que le metteur en scène me demande encore un coup. On est dans un truc. Parce que ce qu'on a appelé les littéraires simul et singulis, c'est un petit peu spécial, étant donné le nombre de costumes qu'il y a. C'est plutôt un assemblage de choses dans lequel, moi, je suis amené à faire quelques maquettes. Mais par exemple, pour la première, pour le premier volet de la trilogie, il m'a fallu faire 40 maquettes sur 200 costumes. Alors, il faut bien que quand j'ai une maquette à faire qui doit s'incorporer à des costumes d'autres décorateurs ou trouver dans le stock, il faut bien quand même que je me plie à une exigence.
Est-ce que la décoration en soi est aussi une exigence, c'est-à-dire le cadre dans lequel vos costumes vont évoluer ?
Fatalement, il y a l'exigence du siècle, de l'idée du metteur en scène, ma propre idée que j'essaye d'imposer aussi. Et tout est exigence. Il y a aussi l'exigence du comédien, du corps du comédien, de son jeu à lui. Enfin, ça, c'est le côté passionnant, je trouve, moi, de la chose, de pouvoir travailler avec les gens. Malheureusement, ça se fait que difficilement.
Avez-vous la possibilité de discuter avant d'exécuter un costume avec l'acteur ?
On est fatalement obligé de discuter avec lui au moment des essayages. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il fait telle chose ou telle autre chose qu'il ne pourra pas faire avec le costume qu'on a prévu. Alors on est fatalement amené à discuter du rôle et à sa version et confronter le tout.
Parfois, vous suggère-t-il des améliorations ?
Ah oui, même la plupart du temps.
Donc d'abord, avant d'exécuter un costume, même si on le crée, il faut d'abord connaître l'acteur.
Oui, mais quelquefois, c'est pas possible parce qu'on n'a pas la distribution dans l'ordre des choses.
Monsieur Gaudry, est-ce que vous ne trouvez pas quelquefois un peu aberrant de refaire des costumes ?
Dans la maison, il y a eu une période, il y a eu une histoire de la maison, c'est-à-dire que dans la maison, il y a eu une mode qui était d'avoir des costumes de répertoire qui pouvaient finalement presque passer d'une pièce à l'autre. Maintenant, de moins en moins. Alors, de toute façon, il n'est pas question de ravauder et de faire passer un costume d'une pièce dans une autre, parce que l'esprit des décorateurs est totalement différent. Ainsi, il est impossible de faire passer du Le Marquet avec du Binance ou du Frigerio. C'est impossible de mettre ensemble. C'est là où est toute la difficulté des assemblages lorsqu'il y a des spectacles comme Simul et Singulis, qui est un assemblage du tout.
Il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est qu'on jouait Molière en costume de Molière, mais en fait Molière, lui, à son époque, jouait ça en costume de la ville, si je puis dire, c'est-à-dire en costume de son époque. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas Molière dans un costume, disons, peut-être plus neutre et pas aussi emplumé?
De plus en plus, on joue Molière autrement. Dans la maison, de plus en plus, les costumes se structurent modernes. Et puis ça, c'est une vision propre à l'ensemble du spectacle. Mais les costumes de Molière aussi ont évolué par tous les temps. C'est au niveau... C'est-à-dire qu'on retrouve généralement le volume, si je puis dire, le volume du costume de l'époque et les idées que se faisait l'époque sur le XVIIe. Ainsi, il y a beaucoup de problèmes. Enfin, il y a des couleurs qui reviennent. Par exemple, les costumes brodés du début du siècle n'ont plus rien à voir, puisque maintenant la broderie coûte une fortune, avec maintenant où on évite de mettre des broderies et on fait plutôt des galonnages. Comme il y a 20 ans, on faisait des applications de feutrine pour remplacer les broderies. Tout ça, c'est une question de mode. C'est l'histoire du costume.
Autre élément essentiel d'une pièce de théâtre, l'accessoire. Pourtant, ce n'est pas facile de le décrire. C'est du moins l'avis de l'accessoiriste, M. Jacky Lapierre.
Là, je crois que c'est la partie la plus compliquée, parce que ça va de la lettre griffonnée, par exemple, à la statue, au candélabre, au pendule.
C'est vraiment le détail.
C'est vraiment le détail. En fait, c'est le complément du décor, la partie un peu décorative.
Est-ce que c'est vous qui suggérez à un metteur en scène ou à un décorateur l'accessoire, ou est-ce que c'est lui qui vous demande l'accessoire?
Ça dépend un peu du décorateur et du metteur en scène. Quand on a l'habitude de travailler avec un metteur en scène et un décorateur, on connaît à peu près sa ligne. Et bon, quand on connaît pas la personne, il faut essayer justement de le connaître, de se chercher un peu avec lui ce qu'il veut. C'est pas toujours facile d'ailleurs.
Là, je vois que vous réparez une pendule. Mm-hmm. C'est une pendule de quel siècle et pourquoi la réparez-vous?
Du siècle.
Et pourquoi faut-il qu'une pendule marche dans un théâtre? Parce qu'au fond, personne s'en aperçoit.
En fait, là, elle est réparée parce que c'est plutôt pour le plaisir. Mais il est arrivé dans des spectacles où on me demandait une pendule qui fonctionnait.
Si important que cela?
Certainement pour le metteur en scène.
Parce qu'en fait, le spectateur, lui, s'en apercevra pas qu'elle fonctionne ou pas.
Oh, il peut y avoir des puristes dans la salle.
Accessoires plus gros, qu'est-ce quel genre? Vous occupez par exemple des armements?
Non, pas des armements, mais les statues par exemple.
Alors là, c'est vous qui faites la statue ou alors vous la réparez?
Là, on s'en tient à la réparation parce que l'atelier n'est pas suffisamment grand pour la fabrication.
Quel a été l'accessoire le plus difficile à réaliser?
Oh, je crois que ça a été un immense plateau de bronze et de métal ciselé pour Périclès. C'était un immense plateau qui faisait 2,40 m de diamètre. C'est une demi-lentille en cuivre martelé avec des ciselures d'animaux tout autour.
Et le plus petit accessoire que vous avez dû fournir?
La lettre.
Et pour griffonner une lettre, il faut un spécialiste?
Il faut un certain coup de main, oui, parce qu'il faut que ça ait l'air d'être écrit, et il ne faut pas qu'il y ait de texte dessus pour pas que ça trouble le comédien. C'est-à-dire qu'il faut faire des fausses lettres qui aient l'air de l'être sans en être.
Est-ce qu'un accessoire doit toujours dépendre de l'époque à laquelle se passe la pièce?
Lorsqu'on a... une reconstitution sur une époque par rapport à une pièce, oui. Mais des fois, on fait un compromis un peu.
En fait, vous amalgamez les deux siècles, par exemple.
Par exemple, oui. Disons, on se donne 60 ans pour un objet.
Vous est-il arrivé d'inventer complètement un objet?
Oui, j'ai déjà inventé, mais en fait, ça n'a pas été... on l'a pas utilisé en scène, ça a été supprimé au dernier moment. C'est une espèce de poêle, genre détecteur, un peu, qui devait fumer, qui devait faire des étincelles. Et bon, le metteur en scène, au dernier moment, l'a supprimé. Mais c'était entièrement inventé, c'était un peu futuriste. Mais il arrive justement de faire des spectacles, enfin de monter entièrement des spectacles ou avoir pas mal d'objets. Et au dernier moment, le metteur en scène est pur au maximum parce qu'il s'aperçoit que finalement, il s'est laissé un peu envahir par les objets. C'est un peu le danger d'ailleurs.
Grâce à un accessoire, a-t-on été obligé de changer une scène complètement ?
On a déjà été obligé d'adapter une mise en scène par rapport à un accessoire. Ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps dans Tartuffe. Il fallait tirer des coups de feu avec des pistolets qui étaient en fait des pistolets de tir que j'ai transformés. Donc il y avait un certain danger, il a fallu adapter la mise en scène en fonction de ça. Il fallait que le personnage qui se faisait abattre se trouve au minimum à 3 mètres pour ne pas prendre les éclats de poudre, parce que c'était en fait des pistolets à poudre noire.
Est-il plus facile de trouver des accessoires pour une comédie que pour une tragédie ?
Je crois que pour la tragédie, c'est plus facile, parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup d'accessoires pour une tragédie. C'est très limité, toujours. Et c'est toujours limité au niveau bon, ce sont des lettres, des parchemins, des choses comme ça. Alors que pour la comédie, c'est tellement vaste.
Comédies et tragédies alternent, et cette alternance est le leitmotiv de la comédie française. À l'étage Préville, donc au deuxième étage, M. Catala prépare et répare calmement les perruques et les barbes que porteront ce soir les comédiens. Il décrit ce qu'il est en train de faire.
Je suis en train de refaire la mouette qu'on a jouée hier soir, qu'on joue ce soir. C'est la perruque de Mademoiselle Winter qui joue dans la mouette, alors je la recoiffe pour après la descendre dans sa loge et dans la soirée, la coiffer sur elle.
Vous refaites les perruques tous les jours ?
À chaque fois, oui, à chaque représentation. Les perruques sont refaites, nettoyées s'il y a du tulle à nettoyer. Les moustaches, tout ça, sont nettoyées, refaites et redescendues en loge pour la soirée. Ou mis de côté si on ne joue pas le soir même.
Faites-vous vous-même les perruques ?
Non, les perruques non, ne sont plus faites ici. Elles sont faites par Bertrand, un perruquier de Paris. Mais avant, elles étaient faites par un monsieur qui avait la concession, qui s'appelait Monsieur Chaplin. Avec sa femme, il faisait ça. Mais malheureusement, ils sont morts. Alors maintenant, nous avons affaire à un autre perruquier.
C'est difficile de faire des perruques ?
Ben oui, c'est surtout un travail assez long parce qu'il y a des heures de... Comprenez, les cheveux sont implantés avec un crochet et évidemment, tout ça, ça nécessite beaucoup d'heures de travail.
C'est très difficile aussi de réparer et d'entretenir une perruque ?
Oh, c'est un travail... Non, c'est pas... Enfin, nous, c'est nous qui sommes chargés de ça. Nous sommes six ici, nous sommes chargés de... Justement, de nettoyer, d'entretenir, d'emmagasiner, d'enregistrer, enfin tout ça.
Et à chaque nouvelle pièce, nouvelle perruque ?
À nouvelle perruque, oui. Nous travaillons avec un décorateur qui, lui, travaille avec le metteur en scène. Et nous venons, et avec aussi les comédiens quand même, on essaie de un peu satisfaire un peu tout le monde.
Quel est le temps de vie d'une perruque ?
Elle peut durer longtemps, vous voyez, ça dépend si c'est une pièce qui joue. On va jouer beaucoup, alors la perruque va être un petit peu fatiguée, mais de toute façon, il y a possibilité de la rafraîchir, c'est-à-dire refaire faire une partie de la perruque, le devant, ce qui se fatigue le plus. Mais autrement, on a des perruques qu'on garde, nous, depuis des années. Des fois, elles resservent pour d'autres pièces.
Est-ce que ça vous est arrivé de tricher un peu sur l'époque des perruques ? Parce que les perruques du début de l'année de la Louis XIV et celles de la fin de Louis XIV, ce n'était pas du tout les mêmes choses.
On triche assez souvent, vous savez.
C'est obligatoire.
Oui, et puis c'est un peu en fonction de l'époque qu'on le fait, vous voyez. On ne travaille pas toujours exactement. On a des fois des pièces Louis XIV, on leur fait des coiffures Louis XIII, vous savez, ça c'est... Je ne pense pas que les spectateurs viennent contester.
Vous en apercevez, par exemple, dans les films ?
Ah ben, dans les films, oui, quelquefois, oui. Et puis dans certains films, surtout les films américains, les grandes productions qui sont faites avec beaucoup de faste, quelquefois, oui, c'est quand même assez flagrant.
La période Louis XVI, les femmes avaient des gâteaux sur la tête, presque.
Ah oui, des coiffures énormes qui étaient vraiment très belles et très, très difficiles à réaliser. Mais c'était très beau.
Et vous en faites, vous en réparez des perruques Louis XVI ?
On en a fait, mais peut-être quand même pas aussi importantes que les Marie-Antoinette. On en a fait au cours d'une littéraire qu'on a eue ces temps-ci, là, au début de l'année. Mais on les a fait quand même moins importantes, beaucoup moins importantes que les... Il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de spécial, vous voyez, à cette époque.
Monsieur Kona, quel genre d'instrument utilisez-vous pour réparer les perruques ou pour entretenir les perruques?
Ben, c'est-à-dire pour entretenir, nous avons des outils, c'est-à-dire brosse, peigne, fer à friser, et pour le nettoyer bien de l'alcool, et puis, mon Dieu, des têtes, vous voyez, comme je les ai devant moi, et puis, mon Dieu, un peu de travail, quoi.
Vous faites combien de perruques par jour?
Ben vous savez, ça dépend des spectacles. Là, on a un spectacle, à la mouette, on a très peu de perruques. On a 3 ou 4 perruques, puis des barbes. On a d'autres pièces, où on va avoir des pièces Louis XIV, comme le Bourgeois bientôt, où là, on va en avoir une quantité beaucoup plus importante.
Et c'est vous qui les conservez dans ce bureau?
Oui, nous les conservons, nous les mettons dans des tiroirs. Elles sont numérotées, répertoriées et classées. Nous avons des fiches par spectacle, par pièce. Et tout ça est entreposé et entretenu et aussi dans ces placards.
Parlons un peu des barbes. Est-ce que les acteurs n'aiment pas porter la barbe?
Certains, des acteurs plus anciens, eux, avaient l'habitude, sont moins... Mais dans les jeunes, ils préfèrent se laisser pousser les leurs et éviter d'avoir ces choses à coller tous les soirs.
Ça va être difficile, donc les coller, les décoller tout le temps.
Ben oui, mais enfin c'est surtout pas très agréable quand on parle, quand on a un rôle important.
Est-ce que c'est vous qui fabriquez les barbes et les moustaches ou...
Les barbes, non, c'est aussi Bertrand qui les fabrique.
Est-ce vous qui les dessinez ou qui les suggérez un peu?
Ah ben, c'est-à-dire que nous, oui, on les dessine et puis on les taille selon les besoins de l'acteur et de la pièce. Et oui, ça, on le fait quand même nous-mêmes.
Et est-ce que vous discutez avec l'acteur et le metteur en scène avant?
Oh oui, bien sûr, c'est surtout le metteur en scène et le décorateur qui nous donne la ligne. Et après, on voit avec les acteurs et on essaie de que ça aille au mieux.
Y a-t-il des têtes plus faciles que d'autres?
Oui, bien sûr. Mais de toute façon, maintenant, vous savez, on porte de moins en moins de perruques. C'est surtout, même pour les femmes, des choses... adapté, c'est-à-dire une demi-perruque, et on mélange les cheveux de la comédienne ou même du comédien avec.
Vous est-il arrivé d'avoir une comédienne ou un comédien qui ne voulait absolument pas porter ce type ou ce genre de perruque?
Oh, bien sûr, c'est arrivé, mais enfin, on arrive toujours à concilier quand même les deux et arriver à un compromis.
Pourquoi ne pas le répéter? L'une des difficultés des originalités de la comédie française, c'est l'alternance. Les 70 comédiens, sociétaires et pensionnaires doivent être capables de jouer presque tous les rôles des pièces au programme. Ce serait impossible sans souffleur. Au français, le souffleur est aussi régisseur. Il donne les tops de départ aux machinistes et aux décorateurs. Madame Ludmilla Holz, une ancienne comédienne et un jeune souffleur, explique que tout d'abord, pour exercer cet emploi, il faut surtout bien connaître le théâtre.
Il faut bien sentir le théâtre. Il faut sentir les comédiens, il faut quand même pouvoir avoir assisté à toutes les répétitions pour connaître tous les rythmes, tous les temps de la pièce, être très disponible, savoir regarder, écouter et surtout sentir les comédiens. Parce qu'un petit trou de mémoire peut se laisser deviner quelquefois une fraction de seconde avant. Même peut-être le comédien ne sait pas encore qu'il va avoir un trou de mémoire. Et si vous êtes très attentif, vous pouvez le pressentir. Mais c'est assez difficile.
En fait, non seulement vous êtes obligé de connaître parfaitement la pièce, non seulement vous êtes obligé de connaître parfaitement les comédiens, mais en plus vous devez connaître, avoir un certain sens psychologique pour deviner ce qu'ils vont faire.
Oui, et puis un sens psychologique peut-être pour s'approcher au maximum des individualités. Parce que, évidemment, chaque comédien a une façon différente de respirer, de parler, de réagir, de se mouvoir. Et alors, petit à petit, quand on les connaît tous bien, quand on les sent bien, vous pouvez deviner un clignement d'œil, un clignement de paupières, à un pied qui bouge un petit peu plus, à une nervosité brusquement, ou un changement de rythme dans l'élocution. Très souvent, quand un comédien va avoir un petit problème, il Ce problème existe déjà en lui quelques secondes avant et brusquement le rythme habituel de sa phrase se transforme et alors là vous êtes aux aguets, vous dites ça y est, il va se passer quelque chose. Alors vous surveillez, vous êtes aux aguets et puis hop, si vous pouvez, vous envoyez le texte tout doucement, enfin comme il faut et généralement évidemment, alors quand il y a un trou de souffleur, c'est beaucoup plus pratique et ce vrai métier de souffleur ne peut s'exercer qu'avec un trou de souffleur parce que le comédien va immédiatement jeter ses yeux vers vous. Et alors là, vous articulez, vous ne le quittez pas de l'œil, vous le réconfortez, simplement même le fait de voir quelqu'un qui est attentif, qui a l'air calme, souriant, et vous envoyez le texte tout doucement.
Lorsque vous êtes dans un trou de souffleur, voyez-vous la pièce ou simplement les pieds des acteurs ?
On voit les pieds et on voit les corps et on voit les bustes. On voit mal, disons, toute une mise en scène, enfin, mais on voit l'être humain.
Mais vous êtes obligé presque d'avoir un certain sens de la chorégraphie pour savoir exactement quel genre de mouvement il va se passer et pressentir le problème ou le trou.
Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes sur un spectacle, vous avez assisté à un mois et demi, deux mois ou trois mois de répétition, et comme vous avez noté les places de la mise en scène demandée par le metteur en scène, vous connaissez tous les déplacements. Mmh. Et vous savez très bien que tel comédien doit, mettons, se lever, dégager, faire enfin, tel et tel mouvement. Et si donc il y a une rupture dans cette jolie ordonnance, c'est qu'il se passe quelque chose. Mmh. Voilà.
Vous parliez tout à l'heure de problème, et vous n'avez pas employé le terme « trou de mémoire », c'est un terme qui est un peu banni ?
Non, parce que faudrait vraiment expliquer le trou de mémoire, le vrai trou est une chose horrible, on ne sait plus rien du tout, on peut même ne plus savoir ni son nom, ni ce qu'on fait là, les autres peuvent vous souffler, tout le monde peut hurler, on ne sait plus rien. Donc le trou de mémoire, c'est pour ça peut-être que inconsciemment je ne l'ai pas employé, c'est quand même très rare. C'est généralement le petit problème, le mot qui ne vient pas.
L'esprit vide.
Oui, et puis bêtement le premier mot d'une tirade qui ne va pas venir et qui fait qu'on ne sait plus. Alors évidemment il faut envoyer bien ce mot-là. Ou alors si le petit problème continue, il faut carrément faire sauter une phrase au comédien et lui envoyer la phrase suivante. Il faut surtout le guider. Il faut rester calme, il faut soi-même réagir très très vite de façon à pouvoir, en lisant le texte, penser immédiatement à ce qu'il faut envoyer comme mot pour que le comédien reparte d'un bon pied. Je pense qu'il ne faut pas, enfin il me semble, il ne faut pas retourner à l'arrière si un comédien a loupé une phrase. C'est pas la peine, ça n'a pas été dit, mais il faut envoyer quelque chose de simple, de précis, pour que le comédien ait le temps de prendre une bonne respiration et de repartir. Enfin, tout ça, c'est très théorique. Quand ça se produit, il faut aller très très vite et ne pas se paniquer. Comme à ce moment-là, évidemment, il y a une sorte de tension sur le plateau, puis soi-même, dans le trou, on panique un petit peu, évidemment. Mais il ne faut pas le montrer.
N'est-il jamais arrivé à un souffleur-régisseur d'avoir lui-même un petit problème ?
Un petit problème, ben, je pense que ça peut arriver. Vous savez, ainsi, un spectacle dure une heure et demie, deux heures. C'est pas du tout pour faire l'éloge de notre métier, mais enfin, ça demande une attention terrible. Comme en plus de surveiller le texte et d'être très près du comédien au maximum, donc vous faites beaucoup de choses, mais deux heures d'attention totale, c'est très très fatigant. Alors évidemment, vous pouvez brusquement penser à « zut, tiens, j'ai oublié d'envoyer telle note ou de faire tel chèque ». Et le simple fait de penser une petite phrase toute bête comme ça, vous êtes désorienté vous-même pendant une fraction de seconde. Et à ce moment-là, il peut évidemment se passer quelque chose sur le plateau. Donc à ce moment-là, vous ne réagissez pas aussi vite que vous auriez dû réagir. Ça peut se produire.
Toutes les secondes comptent.
Ah oui, toutes les secondes. C'est très fatigant, hein. Ça dépend des spectacles, ça dépend d'abord des textes. Vous avez des textes très très difficiles, enfin pour les comédiens très difficiles à apprendre et à jouer. Donc tout dépend des spectacles. Avec certains auteurs, on peut se rattraper assez facilement, dans d'autres c'est pas possible, enfin c'est difficile. Mais enfin c'est très passionnant.
Faut-il avoir une voix spéciale ?
Non, il faut savoir articuler. Et puis savoir quand même placer sa voix pour que le comédien entende, mais que toute la salle ne vous entende pas. Donc il faut savoir juste envoyer comme il faut.
Où êtes-vous placé ?
En général, dans le trou du souffleur, quand le metteur en scène et le décorateur ont besoin d'un trou de souffleur, mais dans bon nombre de spectacles maintenant, on supprime le trou de souffleur pour des besoins de scénographie et nous sommes placés sur le côté court de la Comédie Française, c'est-à-dire à côté du régisseur plateau, une cabine de commande où il y a enfin, donc, tous nos boutons et tout, et donc nous sommes assis en coulisses.
Et si, du côté jardin, un acteur a un petit problème, comment faites-vous ? Vous êtes obligé de courir ?
C'est quelquefois difficile si à ce moment-là, vous avez, ou quelques minutes avant, vous avez quelques signaux à envoyer. Sinon, si vous savez qu'il y a un passage difficile, justement, qui se passe au jardin, et si vous n'avez rien à faire d'autre, vous avez le temps quand même de pouvoir traverser derrière et vous placer au jardin, oui. On peut le faire.
Dans ma guérite à mi-chemin, entre la cour et le jardin, sous mon minable projecteur, je suis le premier spectateur. Je suis souffleur. Pendant que ceux d'en haut s'agitent malgré leur rhume, leur bronchite, moi je relis pendant 2 heures un texte que je sais par cœur. Et moi seul, d'ailleurs. Rodrigue n'est pas si mauvais, mais il joue vieux. Il joue français. Quant à Chimène, elle ferait mieux de se faire faire un gosse ou deux. C'est pas sérieux.
Tiens, j'ai entendu dire en fait que certains souffleurs savaient deviner un trou de mémoire simplement en regardant un comédien de dos. Donc vous voyez, ça devient tout à fait extraordinaire. Si vous avez un comédien qui est sur un plateau tout à fait au fond de dos, comment arriver à deviner qu'il ne va plus savoir ? Donc là, c'est un art, ça devient un art.
Pensez-vous que le souffleur soit une sorte de capital confiance pour l'acteur ?
Absolument, absolument. Et même, du reste, que ce soit pendant les spectacles le soir ou même pendant les répétitions, tout le montage d'une pièce, je crois qu'on a ce privilège d'avoir un travail finalement très humble, mais très important. Et justement, je dis ça peut-être parce que je suis orgueilleuse, mais c'est quand même très très important parce que on est là, on est une sorte d'œil, une sorte de miroir aussi. Et puis, il faut être calme, il faut savoir écouter. Et puis, chacun vient vous dire des choses. Et puis, dans les grands moments, vous êtes là avec vos petits bonbons, votre cigarette, vos Kleenex ou à dire une bêtise. Mais je crois que c'est très important. Il n'y a rien de plus difficile que de faire une mise en scène. Il n'y a rien de plus difficile que de jouer la comédie. Et il faut aider. Et il faut qu'il y ait quelqu'un, justement, qui, au fond, on a des responsabilités, mais qui sont beaucoup moins grandes que de jouer ou que d'avoir fait une mise en scène. Donc, dans cette humilité, on finit par avoir une très très grande importance.
Madame, quel bonheur me rapproche de vous. Quoi, je puis donc jouir d'un entretien si doux. Mais parmi ce plaisir, quel chagrin me dévore. Hélas, puis-je espérer de vous revoir encore ? Faut-il que je dérobe avec 1000 détours un bonheur que vos yeux m'accordaient tous les jours ? Quelle nuit, quel réveil ! Vos pleurs, votre présence n'ont point de ces cruels désarmés l'insolence. Que faisait votre amant ? Quel démon envieux m'a refusé l'honneur de mourir à vos yeux ? Hélas, dans la frayeur dont vous étiez atteinte, m'avez-vous, en secret, adressé quelques plaintes ? Ma princesse, avez-vous daigné me souhaiter ? Songiez-vous aux douleurs que vous m'alliez coûter ?
Ainsi prend fin ce centre de gravité placé, je vous le rappelle, sous le signe de l'année du patrimoine et à l'occasion du tricentenaire de la Comédie Française. 3 siècles de décors, de costumes et de machinerie, les petits métiers de la Comédie Française. Un dossier préparé par François Charpentier, avec la participation de Madame Guibert et de Lumila Holtz, ainsi que de Messieurs Gaudry, habilleur de la Comédie Française, François, chef de construction des décors, Catala, coiffeur, perruquier. Réalisation, Noureddine Sanouni. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 juillet 1980.